France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Alex Dutille.
Je m'appelle Rhoda Scott. Je suis née le 3 juillet 1938 à Dorothy, New Jersey, et je suis organiste.
Qu'est-ce qui a fait, Rhoda Scott, qu'à un moment donné, vous ayez quitté New York et les États-Unis pour venir vous installer en France? Racontez-moi ce qui s'est passé.
J'avais déjà commencé à retourner aux études à Manhattan School of Music. J'avais joué une dernière fois chez Count Basie. Et il y avait Eddie Barclay qui était venu. Mais je me souviens pas de l'avoir rencontré, mais mon saxophoniste l'avait rencontré.
Et il l'avait rencontré à Paris?
Chez Count Basie, à New York. Count Basie a dit, viens chez moi, j'ai une jeune organiste qui joue. Et mon saxophoniste lui a parlé, et il m'a dit après, il y a un type, il fait des disques en France, il m'a acheté ma composition. $75. Et il a dit qu'on devrait venir en France conférer Mahler. J'ai dit oui, mais moi je retourne aux études maintenant, je vais même arrêter de jouer ce que j'ai fait. Et puis, quand j'étais à Manhattan School of Music, je faisais des études en théorie parce que je n'avais pas le niveau instrumental d'être étudiant en piano et il n'avait pas de classe d'orgue. Et ça marchait bien, j'avais de bonnes notes. J'ai même eu le prix Borden pour l'élève qui avait les meilleures notes dans les sujets musicaux et des sujets académiques. À la suite, ils m'ont demandé d'enseigner là, dans le département préparatoire, c'est-à-dire les lycéens qui étudiait la musique, qui commençait au conservatoire dans un état préparatoire pour y rentrer après. Et j'ai commencé à enseigner. Mais si vous regardez les fascicules pour le Manhattan School of Music, c'était les professeurs, ils avaient écrit des livres, ils avaient étudié avec, je sais pas, Leonard Bernstein. Ils avaient tellement de choses à leur palmarès. Et moi, je dis... Moi, je n'ai rien. J'ai un bachelor et master's degree. Alors, je me suis dit, c'est nul. Alors, j'ai demandé au chef de mon département et j'ai dit, est-ce que vous croyez que je pourrais étudier avec Nadia Boulanger? Parce qu'elle avait étudié avec Nadia Boulanger et elle en parlait tout le temps. Elle dit, ah oui, certainement, je vais vous faire une recommandation et tout ça. Alors, j'ai postulé pour venir étudier avec Nadia Boulanger. J'ai été acceptée et je suis venue. C'était au Conservatoire des Beaux-Arts à Fontainebleau, où elle restait tous les étés pour enseigner notamment les Américaines qui venaient. Alors, j'ai étudié avec elle.
Comme Astor Piazzolla et Quincy Jones.
Oui, beaucoup. Michel Legrand aussi. Nadia Boulanger, c'était une catastrophe, mais la France, c'était une vraie découverte.
Pourquoi c'était une catastrophe?
J'étais trop intimidée par elle. Elle était d'un univers que je ne connaissais pas. Moi, je suis de l'église noire. Je joue à l'oreille. Je n'ai pas de culture. Je n'avais encore moi en ce moment-là. Alors, elle essayait de me faire parler, mais je pouvais pas. J'étais mesmérisée.
Elle vous intimidait.
Elle m'intimidait grave. Alors, dans les autres matières, pour le solfège et tout ça, je réussissais les dictées, les analyses et tout ça. Mais quand j'étais devant, je la voyais en privé dans ses appartements. Quand j'étais devant elle, j'étais sans parole.
Et ça, c'était avant que vous décidiez de venir en France.
Oui.
C'était, vous vous rappelez de l'année où vous avez travaillé avec Nadia Boulanger?
Bien sûr, c'était en 1967. Alors, je suis partie de là, je n'avais qu'une ambition, c'était de revenir en France pour expérimenter la France et non pas Nadia Boulanger. Alors, je suis revenue à enseigner dans le département préparatoire, mais je me suis dit, il faut que je retourne en France. Pour cela, il faut de l'argent, il faut s'y prendre d'avance. J'ai commencé à étudier le français à Berlitz. J'avais déjà appris, entre guillemets, le français à l'université, au conservatoire. J'ai tout préparé pour retourner en France. J'ai fait la traversée sur la SS France.
Sur un bateau?
Oui. Et j'ai même pris une cabine tout seul. Mais je n'avais pas de lucarne. Et je suis arrivée en France en février 1967, où ça commençait à trembler les choses sociales. Et je m'étais déjà inscrite à la Sorbonne, parce que la Sorbonne est très connue aux États-Unis aussi. Mais en attendant, c'était encore juillet-août pour la Sorbonne. En attendant, je me suis inscrite à l'Alliance française. Et là, il y a des étudiants, des élèves de tous les pays. Donc, on ne peut pas se parler si on ne parle pas français. Et tout était en français. Alors, juillet arrive, j'ai commencé à la Sorbonne. C'était pour les cours de civilisation française pour les Américains. Tout était en anglais, tout en anglais. Et le prof disait, « Bon, vous prenez vos crayons rouges et vous soulignez ça parce que c'est... » Je dis, « Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je parle français à l'Alliance française. » Alors, j'ai arrêté, je suis retournée à l'Alliance française et j'ai été jusqu'au professeur. J'ai mon diplôme.
Rhoda Scott, moi, je croyais que vous étiez venue à Paris et en France comme musicienne. Quelqu'un vous avait engagé dans un club ou un festival alors que vous êtes venue pour étudier le français.
Oui, et pour vivre la France. Parce que j'étais tellement fascinée quand je suis venue pour Nadia Boulanger. Je me suis dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe parce que c'était trop intéressant. J'avais jamais été à l'étranger avant. J'avais joué aux Bermudes, mais c'était tout. Et alors, une fille américaine de la campagne arrivée en France, c'était trop.
Thank you. est-ce que vous avez repris la musique, du coup, quand vous étiez, une fois que vous étiez arrivée?
Ben, il fallait que je trouve du travail. Et je me souvenais de ce que mon saxophoniste avait dit, que Eddie Barclay, qui avait dit que si on venait en France, on ferait un carton. Alors, je suis allée chez Barclay et il se souvenait vaguement de moi. Mais ça n'avait pas donné grand-chose pour commencer. Mais je fréquentais le living room à Paris où tous les Américains allaient pour boire un coup. Il y avait Art Simmons qui jouait du piano et aussi Aaron Bridges qui était ami avec Billy Strayhorn. Alors, eux, ils connaissaient tout le monde. Ils m'ont présenté à tous les musiciens qui passaient. Ils venaient jouer, pas jouer, des fois faire le bœuf, ou bien ils venaient boire un coup. Et comme Français, j'ai rencontré Yves Chamberlain. Et Art m'a présenté, il dit, c'est un organiste. Et il m'a dit, j'ai un orgue dans le studio, si tu veux venir jouer, parce que je n'avais pas joué depuis 4-5 mois.
Yves Chamberlain qui avait le studio Davout.
Davout, exactement. Puis je suis allée à son studio, j'ai rencontré le trio Camara, on faisait le bœuf ensemble et tout ça. Et Chamberlain m'a entendu jouer et je lui ai dit, je cherche du travail à jouer quelque part. Il m'a amené dans un bar ou quelque chose, je ne me souviens pas lequel. Et après, il m'a emmené au Bilboquet.
Le Bilboquet qui était un club à Saint-Germain-des-Prés.
À Saint-Germain-des-Prés. Au Bilboquet, j'ai trouvé un job. J'ai auditionné le soir. J'ai joué un morceau, accompagné par des amis américains que j'avais rencontrés à l'église américaine de Paris. Puis j'ai été engagée. Ça, c'était juste à la fin des événements de mai 68, la grève générale, et les choses reprenaient. Alors, je suis restée pendant 6 mois. J'ai joué tous les jours, 7 jours par semaine pendant 6 mois. C'est là que j'ai rencontré mon futur mari.
Votre futur mari, Raoul Saint-Yves?
Oui.
Je croyais que c'était le patron du Bilboquet.
Il était le directeur.
C'était le directeur?
Oui.
Et donc, il vous voyait jouer tous les soirs. Effectivement, ça a dû vous rapprocher.
Oui, parce qu'il y avait des personnes qui venaient, me disaient, je vous engage pour jouer, je ne sais pas où. Et c'était Raoul qui me traduisait. Il ne parlait pas du tout anglais, mais quand il me parlait, je comprenais. Il dit, oui, ce type, il veut t'engager, mais lui dit lui non parce que ça n'a pas de sens. Et il a fini par me prendre sous son aile pour me conseiller parce qu'il dit, moi, je connais tout le monde, je vais te dire si c'est valable ou pas. Il a mis la barrière parce qu'il fallait venir à lui d'abord pour me parler parce que je ne comprenais personne d'autre. Et il a fini par être mon impresario. On a quitté le Bilboquet pour aller au Midem où j'ai rencontré Denise Glazer qui m'a pris pour une télévision, où j'ai rencontré Bruno Cocatrix qui m'a pris en première partie pour Gilbert Bécaud. Et alors, ça a commencé à faire boule de neige après.
People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children. All the need inside, acting more like children than children.
France Musique, les grands entretiens de Rod Ascott.
La télévision avec Denise Glazer ou les Olympiades que vous avez fait précédaient vos premiers disques en France ou vous aviez déjà enregistré à cette époque-là?
Il faudrait que je consulte mes archives pour vous dire cela. J'ai d'abord fait un disque de Noël, c'était sûrement avant cela, chez Chamberlain. Et après, j'ai fait le premier 33 tours où il y avait Daniel Humer qui m'accompagnait à la batterie. J'en suis très fière.
Et c'était un duo orgue-batterie?
Oui. C'était ce que j'avais fait au Bilboquet et c'était ce que j'avais fait aux États-Unis avant de venir.
Vous n'aviez pas fait d'album aux États-Unis?
Si, j'en ai fait deux pour Prestige. Mais sous marque de Prestige qui s'appelle True Sound, avec le trio que j'avais quand j'étais chez Count Basie.
Mais du coup, ce n'est pas votre discographie qui a déclenché l'intérêt de Denise Glaser ou de Bruno Cocatrix, c'est le fait de vous avoir entendu.
Oui, quand je jouais au Medium, je jouais dans un club qui était pas loin du Medium à Cannes, mais ça n'avait rien à voir avec le Medium, mais tout le monde venait boire des coups et tout ça après.
C'est dû vous faire drôle de faire la scène de l'Olympia juste avant Gilbert Bécaud, en passant de la dimension du Bilboquet, qui est un tout petit club à Saint-Germain-des-Prés, sur la grande scène de l'Olympia. Ça a été impressionnant pour vous, vous en souvenez?
J'étais déjà dépassée par le Bilboquet. Alors, à l'Olympia, c'était autre chose. J'avais un track incroyable. Mais Gilbert Bécaud, avant que le rideau s'ouvre, il venait s'asseoir à côté de moi, faisait des petites blagues et tout ça, pour me détendre, je crois. Et ce n'est que ma volonté de ne pas décevoir mon mari et Bruno Cocatrix qui a fait que j'ai pris sur moi pour le faire.
Et alors, je me souviens que vous avez aussi fait à ce moment-là, dans ces années-là, peut-être la même année d'ailleurs, la première partie d'Antoine à l'Olympia aussi.
Oui, parce que Bruno m'a demandé à rester. J'ai fait la première partie d'Antoine et Georgette Plana ensemble. Ils étaient les têtes d'affiche et moi, j'étais première partie.
Et alors, comment était la réaction du public qui venait voir Gilbert Bécaud, qui venait voir Antoine et qui accueillait du coup Rhoda Scott dans une formule dont il n'avait pas l'habitude, j'imagine, à cette époque-là?
J'ai eu une très bonne réception. J'avais comme batteur Armand Cavalero. J'ai joué le medley de West Side Story et j'ai été très bien reçu.
Ça a dû vous aider aussi, dès le départ, à avoir un public beaucoup plus élargi que le seul public du jazz.
C'est drôle parce que j'ai vu des gens qui ont été à l'Olympia, qui m'ont vu, c'était en 1969. Et ça me fait toujours plaisir. C'est donc vrai que j'ai fait l'Olympia avec Gilbert Bécaud.
Et après, vous l'avez fait toute seule, l'Olympia?
Plusieurs fois, oui. C'est toujours à l'initiative de Bruno Cocatrix et plus tard Jean-Michel Boris, bien sûr.
Il y a un disque très curieux qui a été fait dans ces années-là, au tout début des années 70, Rhoda Scott. C'est le disque qui s'appelle Ballade. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passées les séances d'enregistrement?
Ah oui, il n'y a pas des séances. On a fait ça à une séance.
Il y a eu trois disques.
Il y a eu trois disques. On a fait ça la nuit au studio Berkeley. Et puis, mon mari a éteint toutes les lumières. Il a mis de l'ambiance et dit, vas-y, joue. On ne faisait pas de top, des paroles. Je jouais ce qui me venait par la tête. Des ballades, des standards. Et je jouais, je ne sais pas, 2-3 heures, comme ça. Et on voulait juste faire un vinyle. Et puis, à la fin, on a fait trois.
Mais parlez-moi de l'ambiance, parce que vous dites que votre mari avait éteint les lumières, mais vous n'étiez pas dans le noir. On m'a raconté que ça s'était fait à la bougie, cette séance.
Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et donc, je le sentais, l'ambiance pour les balades et tout ça, j'étais heureuse. J'avais rien à prouver parce que je n'aime pas le studio. Et quand on a fait le disque de Noël, mon mari avait fait un arbre de Noël. On l'a fait en juillet, je ne sais pas. Et il avait fait une ambiance de Noël. Il m'a mis du coton sur l'orgue avec des petites boules de Noël pour que j'oublie le studio. Je trouve là, pour les balades, c'était une ambiance qui me plaisait sûrement. Et j'ai joué du cœur.
Vous avez dans votre carrière enregistré Jean-Sébastien Bach et aussi Richard Strauss.
Oui, des extraits.
Des extraits. Alors pour Richard Strauss, c'était le Zarathustra que Deodato avait arrangé à sa façon aussi sur le label CTI. C'était parce que vous connaissiez ce disque de Deodato ou parce que vous adoriez le Zarathustra de Richard Strauss?
J'adorais le Zarathustra de Richard Strauss parce que je veux pas dire que je fouillais la musique classique. Quand j'étais à New York, au conservatoire, j'allais au concert, j'allais à Lincoln Center pour écouter le Philharmonic de New York. Et même quand j'étais à Westminster Choir College à Princeton, tout le monde était obligé de chanter. Alors, je chantais dans le premier chœur qu'on avait. Après, c'était le chœur symphonique. Les chœurs étaient très connus aux États-Unis. On faisait appel pour les chœurs des symphonies et tout ça. Et là, j'ai chanté avec Van Karajan et Leonard Bernstein pour le 9e de Beethoven. Parce que le chef de chœur, il a fait des auditions, chacun. On devait venir chanter Friedrich Richterfunken. Et il décidait si on pouvait faire partie de l'expédition. C'était à New York, au Carnegie Hall. Mais avec Leonard Bernstein, c'était pour la télévision. C'était une émission que Leonard Bernstein faisait, qui expliquait aux enfants de la musique classique et tout ça. Et donc, on a chanté jeudi, vendredi et samedi à Carnegie Hall avec Van Karajan. Le dimanche, on a chanté le quatrième mouvement, bien sûr, avec Leonard Bernstein.
Et Jean-Sébastien Bach, on dit parfois qu'il y a, harmoniquement, il y a beaucoup de rapports avec le blues.
Ben, il y a beaucoup de rapports avec le jazz, je pense, parce qu'il était organiste d'église et il allait improviser une fugue, un prélude et tout ça, comme s'il était à l'église de mon père. Il improvisait ce dont il avait besoin pour le culte. Souvent, on dit que c'était le premier jazzman parce qu'il a improvisé. Mais avec quel art?
Scott à l'orgue sur le prélude en si bémol majeur de Jean-Sébastien Bach et puis les fantaisies qu'elle s'octroie évidemment. Toutes les références des musiques proposées dans ce grand entretien avec Roda Scott sur le site de l'émission sur francemusique.fr, si aussi sur francemusique.fr que vous pouvez réécouter en streaming ou en podcast ces grands entretiens. Avec moi, Philippe Mercher, Élise Leu, Marie Ferdinand. La réalisation est signée Gilles Blanchard. À demain pour la suite.
À réécouter sur francemusique.fr.